le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
Ce soir, le crime non élucidé dont il est question implique un parricide. Qu'est-ce qu'un parricide? Et oui, c'est un meurtre, donc un fils ou une fille, normalement c'est un fils, qui assassine son père. Donc c'est le fait de tuer son propre père, dans le fond, qui est un parricide. Donc, l'action se passe à Saint-Jérôme en 1872. La date du crime est approximative, donc entre juin et juillet 1872 environ. Et on sait que depuis janvier 1872, justement, donc depuis quelques mois, François Labelle habitait juste aux côtés de son fils Moïse. Oui, je rappelle que François Labelle, à cette époque-là, était âgé de 75 ans. Quelques mois plus tard, Moïse a tué son père. On le sait maintenant. Donc, une fois son crime commis, l'assassin a déplacé le cadavre pour le coucher sur son lit. Donc, automatiquement, si vous vous souvenez, ça fait plusieurs épisodes qu'on n'en a pas parlé, mais c'est de la mise en scène. Automatiquement, aussitôt qu'il est question de déplacer le corps. Donc, dans son crime, ou dans la planification de son crime, il a installé son père ou le corps de son père sur son lit et il s'est arrangé pour placer sa tête profondément enfoncée dans un oreiller de plume, de manière à cacher la blessure qui lui avait été mortelle à la tête. Et voilà. Donc, quelle était vraiment l'intention du tueur à ce moment-là? Est-ce que c'était de cacher son crime? Ben, on peut en douter parce qu'un crime comme ça, à moins de faire brûler le corps et de le faire disparaître complètement, on finit toujours par le découvrir. Hein? S'il devait s'attendre, évidemment, à ce qu'on découvre un jour ou l'autre le corps de son père, pourquoi avoir l'installé comme ça, caché sa blessure? Est-ce que c'est de la honte qu'il avait? Parfois, certains tueurs en ont après avoir commis leur crime. Donc, ça peut arriver, par exemple, de recouvrir le corps parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait et ils ne veulent pas laisser, par exemple, le corps de leur femme tout nu et tout ça. Mais ici, j'avoue que c'est assez difficile à interpréter, surtout qu'on n'a pas tous les détails, évidemment. Donc, on ne jouera pas au profileur. Mais sa mise en scène était terrible parce qu'elle ne s'arrêtait pas là. Donc, M. Moïse Labelle, rien de moins, a mis le feu à la maison pour cacher ses traces. Donc là, vraiment, il voulait se débarrasser du corps au complet. Donc, ça vient changer un peu l'interprétation qu'on faisait au début. Donc, c'est toujours bien, c'est juste pour vous apprendre que c'est toujours bien d'attendre, d'avoir l'ensemble du dossier ou l'ensemble des éléments avant de juger. Donc, voilà, son intention, c'était probablement de tout brûler et de faire comme si de rien n'était, faire comme si son père était mort dans un incendie. Et on raconte même que, justement, son coup a presque fonctionné parce que la maison a été presque entièrement détruite dans le brasier. Selon les témoins, d'ailleurs, qui sont arrivés sur les lieux, ou du moins les premiers témoins, on a constaté que Moïse mettait ses voitures à l'abri. Ici, évidemment, on parle pas de Camaro 68, là. On parle de voitures à traction animale, mais quand même, certaines voitures à cette époque-là avaient beaucoup de valeur. Donc, lui, au lieu d'essayer de sauver son père à l'intérieur, parce que il savait, lui, il n'était pas pour le dire aux témoins, il savait qu'il n'y avait aucun espoir de sauver son père, il était déjà mort. Alors, lui, pendant ce temps-là, il prenait soin de ses voitures pour les mettre à l'abri. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que par une chance incroyable, hein, des fois la chance joue en faveur des victimes, c'est que malgré le fait que François Labelle est décédé dans cette affaire-là, après le brasier, on l'a découvert, ce qui restait de son corps, et sa tête était quand même assez bien préservée pour pouvoir en faire une analyse, du moins assez complète pour déterminer qu'il y avait eu meurtre. Donc, devant le coroner, tout ça a permis, la présence de la tête a permis de conclure que le verdict de la cause du décès de M. Labelle était un meurtre. Alors, évidemment, qui dit meurtre dit il faut chercher un coupable. C'est assez évident. Alors, les yeux se sont tournés vers Moïse, son fils. Et pourquoi les yeux se sont tournés sur lui? Parce que son comportement, du moins ce qu'on a décrit de son comportement, c'est qu'il était du genre sournois, haineux et vindicatif. Le fait qu'il détestait son père semblait être connu d'ailleurs des amis et voisins, donc il s'en était pas caché là, de la haine qu'il avait pour son père. Et en plus de ça, Moïse se serait débarrassé de lui pour ne plus payer la rente qu'il devait lui verser. Donc, c'était un autre motif aussi d'essayer de s'enrichir d'une quelconque façon. Par contre, Moïse Labelle semble avoir prévu le coup, comme on dit, ou certainement avoir prévu une certaine partie des réactions des autorités. Il a deviné, lui, que les autorités finiraient par s'intéresser à lui, ce qui est assez logique, mais pour cette époque-là, c'est quand même peut-être un plus grand exploit. On ne connaissait pas tous les rouages des enquêtes criminelles. En tout cas, les procédures n'étaient pas aussi connues qu'aujourd'hui. Depuis une trentaine d'années, c'est beaucoup mieux connu. En tout cas, à moins de bouder tout ce qui se fait sur les policiers et tout ça, et de regarder ailleurs, ben, y a quand même plusieurs documents, des livres aussi là, qui indiquent comment que ça se passe un peu, du moins grosso modo. Donc lui, sa réaction, étant donné que c'était quand même pas bête, mais c'était pas le premier non plus à y penser, ben il a pris la fuite. Hein? La fuite, c'est quand même une bonne idée pour quelqu'un qui vient de tuer son père. C'est assez évident. Et on l'a recherché partout. On l'a même recherché jusqu'aux États-Unis, même au Minnesota, qui est quand même assez loin. Mais apparemment que les recherches n'ont rien donné. Malheureusement, ben, il était introuvable. Et on commençait à penser que le crime du vieux Labelle serait à jamais impuni. Puis, soudainement, après un certain temps, un certain soir d'hiver, c'est ce qu'on raconte. C'est quasiment une belle histoire du Québec qu'on nous raconte là. Avec le vent sifflant entre les planches de la grange et tout le reste. Bref. On raconte que le grand connétable Bissonnette, là je ouvre une parenthèse, le grand connétable c'est un peu à l'avant-garde des policiers, donc tout ça. demandez-moi pas de décrire son rôle exact, mais le grand connétable c'est un genre de capitaine de police ou un haut gradé et tout ça. Donc lui a été alerté par un informateur, et oui. Ce n'est pas d'hier que les informateurs existent, mesdames et messieurs. Et lui, grâce à cette information-là, il s'est rendu à la maison de Labelle à Saint-Jérôme en compagnie d'un collègue. Évidemment, on savait déjà à cette époque-là que c'était des situations dangereuses, donc on n'y allait pas tout seul. Hein? Et d'autant plus que les formations policières étaient assez, je ne veux pas dire désuètes parce que c'était l'époque, mais elles n'existaient pas. Hein? Donc, on comptait sur sa force, sa propre force physique à ce moment-là et le niveau de quotient intellectuel dont on pouvait disposer. En arrivant chez Labelle, eh bien, Bissonnette et son comparse sont tombés sur la femme de Labelle, donc la femme du fugitif. Et celle-ci leur a dit que son mari n'était pas revenu, donc qu'il était toujours absent. Mais les deux hommes de loi, faut le dire, ils ont compris que la position, surtout Bissonnette a remarqué que la position des draps, dans le lit, je parle, laissait croire qu'il y avait deux personnes qui avaient passé la nuit dans le lit. Là, ça peut paraître étrange, mais je pense... Je ne veux pas m'avancer, là, mais souvent les maisons de cette époque-là étaient à air ouverte, dans le sens que les maisons étaient assez petites et que on couchait, le poêle à bois était central, donc pour réchauffer la maison. Et souvent, les c'était pas des murs ni des cloisons, c'était des draps qui séparaient les pièces. Donc peut-être, ou en flirtant un peu, peut-être aussi qu'il y avait des chambres. Et que Bissonnette, ben, doucement, hein, à cette époque-là, les mandats de perquisition n'étaient pas très, très connus. Donc, c'est peut-être possible aussi qu'il se soit étiré le nez et pour voir justement inspecter toute la maison. Et c'est là qu'il a constaté que, selon lui, en tout cas, il y avait au moins deux personnes qui avaient couché dans ce lit-là la nuit précédente. Donc, est-ce que Madame Labelle avait un amant? Ou alors, est-ce que le fugitif était plus près d'eux qu'on ne pensait? Eh oui, en fait, Labelle, il était très proche. Il était tellement proche qu'il était juste sous le lit. Eh oui, il n'était pas aux États-Unis, où il avait été puis il était revenu. Mais voilà, donc M. Bissonnette s'est penché, puis Agador, notre fugitif est juste à nos pieds. Donc, vous avez compris qu'on l'a coincé immédiatement. Labelle a été arrêté sur le champ. Mais avant d'être arrêté, il a demandé un dernière demande spéciale, si on veut. Tu sais. Il voulait, ben, est-ce que je peux aller dans le grenier pour faire ma toilette avant qu'on m'amène en prison? Tu sais? J'ai-tu le droit de me mettre beau un peu avant? Et là, Bissonnette a refusé sur le coup. Lui, il soupçonnait quelque chose. Et comme de fait, c'était une bonne décision de sa part. Parce qu'en fouillant dans le grenier, eh bien, on a découvert que Labelle avait caché un fusil chargé dans le grenier. Hein? Il était prêt, lui. Donc, il aurait peut-être tué Bissonnette et son collègue pour ensuite reprendre la fuite. Donc, son petit jeu avait été déjoué. On a réussi à arrêter le fugitif qu'on recherchait depuis, je pense, et quand même plusieurs mois. Donc voilà, on l'a ramené à la civilisation pour qu'il soit jugé. Évidemment, ben, l'accusé a dû subir un procès pour le meurtre de son père. Mais ce qu'on raconte dans un journal de l'époque, c'est qu'en dépit de la preuve accablante contre lui, Labelle a été acquittée par le jury. Eh oui. Qui donna comme raison de sa conduite que serait... Là, je lis le journal, hein, fait que c'est pas toujours facile à lire à cette époque-là. Que ce serait... Il y avait même une faute d'orthographe dans ça, c'est épouvantable. Que ce serait un déshonneur pour Saint-Jérôme qu'une exécution capitale y eut lieu. Et je ferme les guillemets. Alors, de ce point-là... ce qui est étrange, c'est est-ce que le fameux déshonneur pour Saint-Jérôme, c'est sûr que là, les condamnations à mort, les pendaisons, tout ça, ça commençait à faire jaser depuis un certain temps et tout ça. Bon, bref, c'était mondial. Ça a pris quand même encore beaucoup de temps, plusieurs décennies avant que ça aboutisse. Voyez-vous, là, on est en 1872. Il faudrait attendre encore plus de 100 ans pour que la peine de mort soit complètement abolie au Canada. Alors, mais les mentalités commençaient déjà. Donc, pour Saint-Jérôme, on a dit que ce serait un déshonneur. On ne voulait pas de pendaison à Saint-Jérôme. Bon, ça veut dire que la majorité, peut-être des personnes, avaient évolué dans ce sens-là, qu'on ne voulait plus d'exécution. Par contre, est-ce que c'est ça qui a influencé le verdict? Si c'est ça, ce serait une erreur, parce que même si, à cette époque-là, le verdict de meurtre, si on condamnait quelqu'un pour meurtre, automatiquement, il était condamné à mort. Mais, par la suite, ça pouvait être, comme on l'a vu dans plusieurs cas, là, ça pouvait être transformé en commutation de peine, donc en emprisonnement à vie, et toutes sortes de choses comme ça. Mais généralement, à l'époque où on en est, c'était des emprisonnements à vie. Donc, si on a acquitté Labelle parce qu'on ne voulait pas qu'il soit pendu, là, on a fait une erreur, je pense, une erreur de justice, parce que ce serait une injustice, au fond. Vous savez, j'ai déjà parlé avec une journaliste, je la nommerai pas, mais elle m'avait demandé, après très peu de questions, est-ce que j'avais déjà rencontré des injustices? La réponse a été non, mais c'était pas la bonne réponse que je voulais donner. Je me suis mal fait comprendre, comme on dit. Je n'ai pas été mal cité parce qu'elle ne m'a pas cité du tout. C'est pas ça que... Mais dans le sens que, pour comprendre un dossier comme il faut, savoir s'il y a eu justice ou injustice, ben, il faut l'avoir lu jusqu'à la fin. Et qui fait ça? À peu près personne. Donc, mais dans ce cas-ci, et aussi quand on fait allusion à injustice, c'est souvent des cas... le classique, là, le fameux classique de la personne qui a été accusée à tort et à travers et elle n'aurait pas dû. Mais des fois aussi, c'est le contraire. L'injustice, c'est quelqu'un qui aurait dû être condamné et qui a été acquitté pour des raisons un peu douteuses. Donc, si c'est le cas ici, là, c'est sûr qu'on n'a pas le dossier, on n'a pas... Il faut faire attention dans notre opinion finale, dans notre conclusion. Mais si c'est vraiment le cas, si on se fie sur cet article de journal-là, qu'on l'aurait acquitté pour éviter le déshonneur à la ville de Saint-Jérôme, ben c'est une grosse erreur. Parce que, pourquoi? Eh bien, même encore aujourd'hui, il faut faire une distinction très, 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 mais très, très nette entre le verdict et la sentence. Le verdict, c'est de savoir est-ce qu'il est coupable ou non coupable. Donc, ça peut être coupable de meurtre, coupable d'homicide involontaire, coupable de ci, de ça, et blablabla. La sentence, elle est donnée par le juge. Ensuite, donc à cette époque-là, ça pouvait impliquer la peine de mort, ça pouvait impliquer l'emprisonnement à vie, ça pouvait impliquer quelques années de prison, quelques mois. On l'a vu d'ailleurs dans la série Féminicide. Un homme de sang-froid tue sa femme et la laisse mourir dans un banc de neige, puis écope d'un mois de prison. Bravo, champion. Mais c'est ça, il faut faire une distinction. Mais par contre, à cause de la peine de mort, je peux comprendre que les gens, où il y a peut-être eu plus d'acquittement qu'on pense à cause de ça. Pourquoi? Parce que les gens finissaient par savoir que si on déclarait quelqu'un coupable de meurtre, automatiquement, le code criminel le disait, c'était la peine de mort. Donc, si on ne voulait pas de peine de mort, ben, il fallait s'arranger pour que le verdict ne soit pas de meurtre. C'est assez clair. Et ce qui fait que peut-être qu'en abolissant la peine de mort plusieurs années plus tard, on a fait en sorte que la justice a retrouvé ses lettres de noblesse et que, bon, les acquittements, en tout cas, au moins, on ne trouverait plus d'acquittements basés sur cette peur-là de devoir tuer quelqu'un. Il faut se mettre dans la peau d'un jury, c'est bien facile. Là, on voit du monde mourir sur Netflix à tour de bras ou dans des films. Je dis Netflix, mais Netflix n'existait pas quand j'étais petit et on en voyait mourir en masse pareil, hein, dans Rambo, dans n'importe quel film d'action et tout ça. Mais dans la vraie vie, c'est différent. C'est très, très, très différent. Donc, dans la peau d'un jury, vous le savez, là. Là, vous passez plusieurs jours, plusieurs semaines à vouloir décider du sort de quelqu'un. Puis si vous déclarez coupable, vous savez qu'il va mourir. Donc, si vous voulez éviter ça, vous voulez ne pas l'avoir sous la conscience, ben c'est ça, il reste un choix à faire, c'était l'acquittement. Alors, voilà, pour terminer, ben je dirais que la justice dans ce cas-ci s'est peut-être faite d'elle-même. Oui, parce que j'ai trouvé dans les journaux, plus de 30 ans, ben 30 ans plus tard, donc en janvier 1902, Moïse Labelle s'est enlevé la vie à Sainte-Agathe-des-Monts. Oui, il s'est suicidé 30 ans plus tard, après le meurtre de son père. Par contre, on ne peut pas interpréter ça comme un aveu d'après-coup, mais c'est quand même curieux de voir que 30 ans plus tard, il se suicidait pour le meurtre de son père, qui, au fond, n'a jamais été résolu. Alors, voilà, triste histoire, mais quand même assez intéressante, d'un point de vue plus, je dirais pas juridique, mais pour la compréhension des procès. J'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre que, bon, la peine de mort, c'est un des aspects qui peut influencer le jury, mais de façon négative. Donc ça peut donner lieu à des injustices, mais peut-être pas toujours les injustices qu'on aurait voulu.